l'histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité de la recherche, actualité des documentaires, actualité de la vulgarisation de l'histoire après l'inconnu des archives qui vous est présenté ce matin par Chantal Meyer-Plantureux. Anaïs Quien, pour sa chronique sur les documentaires d'histoire, nous présentera Le mur de l'Atlantique de Jérôme Prieur, diffusé en novembre dernier sur France 2, qui sera bientôt publié en DVD et qui est un documentaire accompagné d'un livre publié en même temps chez De Noël. Puis Pierre Laborie, directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, spécialiste de l'opinion publique sous Vichy, viendra nous parler de son dernier ouvrage, paru hier chez Bayard, qui, sous le titre Du chagrin et le venin, La France sous l'occupation, mémoire et idées reçues, s'attaque à une vision de la guerre, de la résistance et de l'occupation qui ne correspond pas à ce qu'il a perçu, lui, dans les archives. Partant du film de Marcel Ophüls, Le chagrin et la pitié, il explique comment, selon lui, la thèse d'une France qui s'est majoritairement accommodée de l'occupation l'a emportée, faisant disparaître la geste de la résistance, devenue brusquement un mythe à démonter. Un livre ferme et parfois amer qui critique l'époque, les médias et une doxa historique, une vulgate qu'il définira pour nous. Pour finir, Perrine Kervran nous revient avec sa chronique « C'était à la mode » dans laquelle elle nous rappelle une mode aujourd'hui disparue. Aujourd'hui, elle nous rafraîchit la mémoire sur les rayures vestimentaires arborées dans la France de 1775. Mais auparavant, comme chaque vendredi, la séquence « L'inconnu des archives ». Aujourd'hui, Chantal Meyer-Plantureux, professeure en art du spectacle à l'Université de Caen, nous présente un inconnu qu'elle a croisé dans les archives de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine à l'abbaye d'Ardennes, près de Caen. Et cet inconnu s'appelle Henri Lévy. Bonjour Chantal Meyer-Plantureux.
Bonjour Emmanuel Laurentin. Alors cet inconnu des archives, qui me reste encore pour une grande part inconnu, a surgi au détour de la consultation du fonds du syndicat de la critique dramatique déposé à l'IMEC. Je consultais en fait le dossier d'un critique de théâtre assez en cours à l'époque, Gustave Fréjaville, quand j'ai découvert que ce dernier avait fait un rapport négatif sur un confrère lyonnais qui déposait sa candidature en 1933 pour être membre de ce syndicat, Henri Lévy. Le dossier comportait, outre la lettre de demande officielle, l'extrait de casier judiciaire, quelques exemplaires d'une revue, Le Foyer, revue mensuelle des œuvres sociales des cités et jardins, dans lequel le critique écrivait, et quelques numéros aussi de 33 du journal Le Radical, créé par Édouard Herriot, dont la critique théâtrale était tenue par Henri Lévy. Ce critique, en fait, répondait à tous les critères d'admission, travail régulier depuis au moins 2 ans, moralité irréprochable. Alors, quels étaient les arguments de Fréjaville pour lui refuser l'entrée ? Monsieur Henri Lévy, écrit-il, est critique dramatique au journal Le Radical depuis 2 ans, à la revue Le Foyer depuis 3 ans. Il a adopté pour ses articles une forme épistolaire qui leur impose un ton de chronique fantaisiste plutôt que de critique, quel que puisse être par ailleurs le fond sérieux des idées exprimées. Les articles du Radical sembleraient seuls, en tout cas, pouvoir entrer en ligne de compte à l'abri de sa candidature, la place qui lui est laissée dans Le Foyer, revue mensuelle, ne lui permettant guère qu'une énumération rapide de pièces jouées et non une véritable discussion de leur valeur. Il semble, dans ces conditions, que les titres professionnels de M. Henri Lévy apparaissent un peu indécis et qu'il n'y aurait aucun inconvénient à ajourner la décision à prendre sur sa candidature. Apparemment, il n'y aurait rien à dire à ce rapport, le rapporteur étant libre de ses opinions, si ce n'était les arguments employés par Gustave Fréjaville. La forme épistolaire, qui manquerait de sérieux, est annoncée en effet par le pseudonyme choisi par Henri Lévy, Lewis et Irène. Cette double identité permet aux critiques de dialoguer, de donner des arguments contradictoires, d'infléchir certaines informations et certaines affirmations aussi. C'est à mon sens une forme très originale et à ma connaissance, le seul critique jusqu'alors, à l'avoir employé. Le mépris affiché pour le travail du critique dans la revue Le Foyer est à la mesure du mépris que doit ressentir Fréjaville et le staff du syndicat de la critique pour une revue qui s'adresse à un public très populaire. Le Foyer, la revue mensuelle des œuvres sociales des cités-jardins, Lévy fait en fait un véritable recensement des pièces qui peuvent intéresser un public ouvrier, soucieux de se divertir avec des pièces de qualité. Quant à sa critique dans l'hebdomadaire radical socialiste, elle occupe 2 larges colonnes en dernière page et donc, là encore, répond totalement à la définition du critique. En fait, en filigrane, on peut lire les sous-entendus de Fréjaville. C'est d'abord un critique de gauche, dans des journaux qui affichent clairement leur opinion, à une époque, 1933, où les clivages gauche-droite sont exacerbés. Surtout, c'est un critique qui fait preuve d'originalité et de entre guillemets, fantaisie, dans la forme, alors que Fréjaville est le fer de lance du conformisme. C'est d'autre part un critique de province, dans un syndicat qui, même s'il a retiré l'étiquette de Parisien, ne fait qu'entrouvrir la porte aux critiques régionaux. Je n'ose ajouter que peut-être aussi Lévy est juif et que nous sommes en 1933, mais dans l'état actuel de mes recherches, je ne peux encore l'affirmer, même si j'ai quelques éléments qui peuvent le laisser penser. Autant dire que cet inconnu m'intrigue et qu'il va faire l'objet d'une enquête beaucoup plus approfondie.
Merci Chantal Meyer-Plantureux d'avoir participé à cette chronique donc l'inconnu des archives. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent d'abord la réécouter, s'ils veulent la réécouter, sur le site franceculture.com, comme toute l'émission d'ailleurs. Et puis également participer à, non pas un concours, non pas un jeu, mais participer à enrichir notre connaissance de ces inconnus des archives. Vous êtes historien amateur, historien professionnel. Vous avez fait un master, une licence, des dossiers qui vous ont permis de vous rendre dans les archives. Eh bien, n'hésitez pas à enrichir notre site sur la page du vendredi. Tous les vendredis, eh bien, il y a une page qui vous accueille. Donc, vous pouvez laisser votre propre inconnu des archives, un inconnu, une inconnue, d'une période très ancienne ou plus récente. En tous les cas, nous les lirons, nous les publierons et nous en ferons quelque chose dans la fabrique de l'histoire d'ici 3 mois.
Maintenant, c'est silencieux, c'est vide, mais à l'époque, c'était une ruche d'activité. Il y avait 291 000 ouvriers sur le mur de l'Atlantique, au maximum au printemps de 1943, mais 10% seulement d'Allemands, des soldats du génie allemand, les employés des entreprises allemandes, mais qui ont servi de cadre. La grosse partie des ouvriers venait d'ailleurs. Il y avait des employés français, des entreprises françaises. Il y avait des volontaires, des chômeurs de la Belgique, de la Hollande, du nord de la France, qui cherchaient du travail. Mais il y avait aussi des ouvriers requis. Il y avait des ouvriers polonais et russes amenés ici par la force. Il y avait des réfugiés espagnols que la France avait internés dans les camps. 1939.
Alors, ceux qui connaissent bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale auront peut-être reconnu la voix d'un historien célèbre, un historien américain, à savoir Robert Paxton. Vous êtes là, vous aussi, vous n'êtes pas intervenu depuis longtemps pour parler de votre chronique et des documentaires d'histoire, Anaïs Quin, depuis avant Noël. Donc, vous êtes là pour nous présenter un documentaire déjà diffusé donc, sur France 2, qui sera bientôt publié en DVD et qui donne lieu à un livre de Jérôme Prieur, Le mur de l'Atlantique, monument de la collaboration chez De Noël.
Oui, je pensais que traiter de ce documentaire aujourd'hui en compagnie de Pierre Laborie pouvait nous intéresser, car c'est typiquement le genre de sujet qui est ballotté entre le tout résistentialiste et le tout collaborationniste. Donc on est en ce qui concerne la construction du mur de l'Atlantique, toujours entre cette légende du « j'ai effectivement contribué à la construction d'un blockhaus, mais je mettais du sucre et de la farine dans le béton pour fragiliser la structure », ce qui, lorsqu'on connaît les restrictions alimentaires, paraît quand même très, très étrange. Et de l'autre côté, la construction de ces blockhaus a profité aux entreprises et certains en ont tiré une fortune énorme, donc le tout collaborationniste du mur de l'Atlantique. Alors Jérôme Prieur est parti d'une interrogation simple qui était d'interroger ces bâtiments,
ces blockhaus
très liés à l'imaginaire estival, aux architectures plus ou moins futuristes, pour s'interroger sur qui, tout simplement, avait construit ce mur de l'Atlantique qui part de Dunkerque jusqu'à Biarritz, évidemment. Alors, ces fortifications, leur construction débute dès le début de la guerre par l'armée allemande dans le Pas-de-Calais. Et puis, c'est en 1941, lorsque la guerre devient mondiale, lorsque cette guerre se fait sur deux fronts, un front à l'est contre la Russie et un front à l'ouest contre les alliés anglo-américains, que Hitler décide de pallier le manque d'hommes par le béton sur le front ouest. Alors, évidemment, à ce moment-là, il faut de l'argent, mais l'argent, il y en a, l'argent coule à flot, car les frais d'occupation que la France est obligée de verser selon les conditions de l'armistice sont bloqués à la Banque de France et ne servent à rien. Et donc cet argent qui dort va être employé par l'organisation TOD qui va prendre en charge la construction fond de ce mur de béton censé freiner évidemment un débarquement allié.
Alors il n'y a pas simplement de l'argent, il faut aussi des hommes pour pouvoir fabriquer ce mur, Anaïs.
Et il va falloir de plus en plus d'hommes. Il faut savoir que 15 000 bunkers étaient prévus à la construction. Seulement 8 000 auront le temps d'être construits. Mais ce mur de béton s'étale sur 4 400 km. Donc on voit un petit peu la vitesse d'exécution de ce mur de l'Atlantique. On va même parfois jusqu'à recruter dans les cafés. Le mur finit par résorber le chômage en partie de la zone occupée. On propose des primes de séparation, des primes de logement, des primes de bombardement. Et même le STO, à partir de 1943, ne suffit pas à répondre à la demande d'hommes que nécessitent ces chantiers.
Alors évidemment, il y a toute la question de la compromission des entreprises dans cette grande entreprise donc, de construction du mur de l'Atlantique. Beaucoup d'entreprises ont participé et Jérôme Prieur en parle dans son documentaire ainsi que dans son livre chez De Noël, c'est ça ?
Oui, absolument. Et lors d'une présentation de ce documentaire à l'Institut Mémoire des Éditions Contemporaines, on a été immédiatement frappé à la suite de la projection par les gens qui étaient là. Donc on était à côté de Caen, donc une région très, très fortement touchée par la mémoire de la construction de ce mur. Et effectivement, les gens à la fin du film nous disaient « Mais attendez, nous, nos pères, nos grands-pères ont participé à la construction de ces blocos, il fallait bien vivre. » Et donc c'est ce que je trouve tout à fait intéressant dans ce documentaire de Jérôme Prieur, qui paraît un peu sec parce qu'il a adopté l'esthétique.
Alors Jérôme Prieur, pour tous, voilà,
il faut se souvenir de ce, c'est-à-dire que ce sont des historiens qui racontent l'histoire devant des paysages de blocos. Aucun témoin n'est appelé à intervenir, si ce n'est les archives d'époque que Jérôme Prieur diffuse entre les témoignages des historiens. Mais c'est bien là la qualité essentielle de ce document, c'est de voir comment la notion de collaboration, le degré de collaboration et le fait de prononcer simplement le mot de collaboration touche, atteint et doit être nuancé lorsqu'on l'emploie. C'est-à-dire que certains, effectivement, ont contribué à la construction de ce mur. Peut-on réellement parler de monument de la collaboration ? Peut-être pas.
Peut-être d'un monument de la complexité,
imaginez-vous. En tout cas, à tous les degrés d'exécution, évidemment.
Voilà. Donc, pour ceux, parce que vous avez donné envie à nos auditeurs de voir ce documentaire, pour l'instant, il n'est pas encore ressorti en DVD, mais en tout cas, ils peuvent se pencher sur le livre de Jérôme Prieur, Le mur de l'Atlantique, monument de la collaboration, puis on les avertira quand il sortira ce documentaire, ce DVD. Un petit mot, Pierre Laborie, sur cette difficulté, parce que tout compte fait, on est exactement dans le thème de votre livre, dont on va parler maintenant, Le chagrin et le venin, la France sous l'occupation, mémoire et idées reçues, mémoire, témoignages, historiens, est-ce qu'on les mélange, comment on les mélange, est-ce qu'on les fait dialoguer entre eux, c'est tout ce dont vous discutez dans ce livre paru chez Bayard.
Disons que ça fait partie des choses effectivement qui sont au cœur de mon livre, mais autant ce que vous avez dit sur le mur d'Atlantique est effectivement révélateur des problèmes que pose l'occupation, autant je crois que partir systématiquement du prisme de la collaboration pour tenter de comprendre cette période, c'est peut-être sans faire une erreur de jugement, c'est peut-être se placer à partir d'un point de vue dont on peut contester la pertinence, puisqu'en fait, cette collaboration, telle qu'on l'entend en tout cas maintenant, telle que les gens l'entendent, c'est-à-dire un acte de complicité avec l'occupant, ne semble pas forcément refléter le meilleur angle possible pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer à ce moment-là. Il me semble, en tout cas, c'est une chose...
Alors, c'est au cœur de votre livre, voilà. Donc un gros livre d'un peu plus de 300 pages, donc paru chez Bayard, dans lequel vous tentez donc d'expliquer pourquoi l'époque d'aujourd'hui regarde cette époque de la Seconde Guerre mondiale de façon un peu particulière. Et on se demande même, Pierre Laborie, si vous aimez vraiment l'époque dans laquelle on est.
En tout cas, je la préfère certainement.
Oui,
mais les gens ont pu vivre à ce moment-là, sans aucun doute.
Mais tout de même, il y a chez vous, je disais tout à l'heure, une sorte d'amertume sur cette évolution, cette lente évolution de l'histoire, de la perception par nos contemporains de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, qu'il vous faut expliquer tout de même, Pierre Laborie.
Mais le mot d'amertume me semble fort. Enfin, en tout cas, je n'ai pas écrit ce livre avec l'amertume. Si vous le ressentez, c'est que sûrement je me suis trompé quelque part.
Bah, on pourrait dire bitterness, comme on dit en anglais, je ne sais pas si c'est,
non,
si c'est
en
mieux.
En revanche, ce qu'on peut dire peut-être, c'est vrai que comme historien, pas tous, je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent très très bien dans ce qui est écrit à l'heure actuelle et qui sont particulièrement à l'aise, ce qui effectivement n'est pas tout à fait mon cas, mais c'est beaucoup plus un sentiment de lassitude, je dirais, pas lié au fait que nous sommes un certain nombre, mais c'est vrai qu'il y a des divergences de vues chez nous, vous le savez parfaitement, puisqu'ils passent souvent ici d'ailleurs, donc sur cette interprétation que l'on peut faire des comportements, parce qu'en fait, le grand problème est là. Comment les gens sont-ils comportés et dans quelle mesure peut-on penser avoir la légitimité de porter des jugements sur la façon dont les gens sont comportés. Bon, je laisse de côté, bien sûr, nous y reviendrons sans doute, mais je voudrais dire que ce qui me préoccupe, c'est qu'effectivement, un certain discours, on va dire non conformiste, non conforme plutôt, a énormément de mal à traverser.
Alors, je ne sais pas, il est non conforme aujourd'hui, mais on vous répondra de l'autre côté, de ceux qui tiennent un autre discours historique, on vous répondra qu'il était conforme auparavant et qu'il y a un peu de nostalgie dans ce que vous dites.
Mais justement, c'est là que je ne suis pas d'accord avec vous, Emmanuel, avec tout le respect que
je vous dois. Non, non, mais je me fais l'avocat du diable puisque je suis en face de vous et que voilà, il faut...
Parce qu'en fait, moi, je prends l'exemple si vous voulez, enfin, ça va citer lundi matin... Audrey Pulvar faisait donc sa chronique, à ma grande surprise d'ailleurs, sur mon livre. Et alors qu'elle était en train, c'est ça, sur France Inter, alors qu'elle était en train donc de dire ce que j'essayais de dire dans mon livre, Patrick Cohen, pour lequel par ailleurs j'ai beaucoup d'admiration, l'a interrompu et lui a dit à un moment : ah, c'est le retour des 40 millions de résistants. Et il a même ajouté : Monsieur Guénaud, qui est là, va pouvoir lire ce livre avec très grand plaisir. Donc systématiquement, un peu comme on vient de le faire à l'instant, on renvoie l'idée que si on essaie de porter un regard critique sur la manière dont les choses sont dites aujourd'hui, on n'a pour objectif que de revenir à ce qui se disait avant. Et en fait, c'est absolument le contraire de ce que j'ai fait, de ce que je tente de faire dans mon livre.
Alors justement, qu'essayez-vous de faire dans ce livre et pourquoi donc cette envie comme ça de porter un peu le fer? Parce qu'il y a tout de même, même si tout
oui,
ça
bien
est
sûr,
un peu
bien sûr,
est un peu émoussé parce que vous ne pouvez pas attaquer directement tous vos collègues qui ne sont pas toujours d'accord. mais en tout cas, vous y allez, vous portez un peu le fer contre. Non. Certaines thèses, certaines visions de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, en particulier sur les comportements donc, des Français pendant cette Seconde Guerre mondiale. Sont-ils ou pas, se sont-ils accommodés de cette guerre au bout du compte? Toute question que vous vous posez pendant tout ce livre, donc Le Chagrin et le Venin, Pierre Laborie.
Est-ce que je peux préciser là encore un petit peu? Bon, le but, enfin je le précise, je veux absolument pas qu'il... Je prends bien sûr mes responsabilités, mais le but n'est pas de porter le fer contre des collègues. C'est absolument
non,
pas
non,
ça.
Non, contre des interprétations, contre des...
Ce qui m'intéresse, je le dis franchement...
Vous appelez ça la vulgate.
Voilà, exactement. Donc, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de porter un regard critique sur ce qui est devenu une vulgate, c'est-à-dire un discours que l'on entend partout. Tout à l'heure, vous avez vous-même parlé spontanément de résistentialisme. C'est un mot qui est entré dans le langage courant. Moi, j'ai voulu essayer de voir ce qui se cachait derrière ce mot et ce qu'il avait voulu dire. Et j'ai découvert des choses que j'ignorais avant et qui sont quand même curieuses. Peut-être que nous aurons...
Allez-y.
Non, mais c'est peut-être pas le moment. Si. Mais donc, alors, ce que j'ai voulu faire, surtout, je dis franchement, je me suis servi, effectivement, de cette période de la Seconde Guerre mondiale pour tenter de mener une réflexion qui peut paraître très, très ambitieuse, mais je pense que c'était l'occasion, sur comment se construit aujourd'hui le rapport de notre société à son passé. Et où se construit-il? Et ce sont ces deux questions, très au-delà sûrement de mes possibilités, mais j'ai tenté de le faire, qui m'ont paru intéressantes de tenter de découvrir à travers l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Et on voit là, et depuis les années en gros 1970, avec ce film auquel vous avez fait référence tout à l'heure, Le Chagrin et la Pitié, on voit en effet... s'installer, ce discours convenu, j'appelle vulgate, et qui a surtout ce statut absolument considérable qui fait que les mots qu'il relate sont utilisés comme des évidences. Et le rôle d'un historien, comme je le rappelle dans l'avant-propos, c'est au contraire de s'interroger sur les évidences. Et si nous avons un jour un rôle à jouer, vous avez souvent posé cette question, il est là. C'est-à-dire, est-ce que, à quoi sert l'histoire? Voilà. Ouais. Mais elle sert, entre autres, à cela. À revenir sur des évidences qui sont installées dans la tête des gens comme des choses sur lesquelles on ne revient jamais. Et moi, je pense qu'il faut revenir sur tout, y compris sur les pires des évidences.
Alors justement, puisque votre titre fait immédiatement référence, on peut le dire, Le Chagrin et le Venin, à ce Chagrin et la Pitié, et que vous commencez par évoquer ce Chagrin et la Pitié dès les premières lignes de ce livre, donc paru chez Bayard, on en écoute un extrait.
Clermont-Ferrand, 134 000 habitants, chef-lieu du département du Puy-de-Dôme, capitale de l'Auvergne. 387 km de Paris, 59 km de Vichy, Vichy capitale de la France de 1940 à 1944. Tout près de là, la ville gauloise de Gergovie était la place forte de Vercingétorix vaincue par Jules César. Un père de famille parle à ses enfants d'une défaite plus récente.
En 39, j'ai 27 ans. j'étais père de famille nombreuse. On ne m'avait pas envoyé au front, le front étant la ligne Maginot, n'est-ce pas ? On m'avait envoyé à Montferrand, dans la banlieue de Pierremont. Et à ce moment-là, la crémière de ma femme, n'est-ce pas, Madame Michel, m'avait reproché de ne pas être allé au front. Et après la débâcle, je lui ai répondu, Madame Michel, il était inutile que j'aille au front, puisque le front est venu jusqu'à moi.
Dans la résistance, est-ce qu'il y avait autre chose que le courage ?
Ah, c'est sûr. Mais moi, personnellement, les deux sentiments, n'est-ce pas, qui m'ont été les plus fréquents, ça a été le chagrin et la pitié.
Le colonel était de l'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant bouletait du curé. Le juteux était un fervent extrémiste. Le sergent, un socialiste. Convaincu, le caporal inscrit sur toutes les listes. Et deuxième classe au PMU.
Voilà, extrait donc du Chagrin et la pitié de Marcel Ophuls, donc avec le témoignage de Marcel Verdier, pharmacien à Clermont-Ferrand, qui est entré, pourrait-on dire, dans là aussi la légende de l'histoire de cette période-là, puisque cette phrase, effectivement, je n'avais pas besoin d'aller au front puisque le front est venu à moi, est devenue une phrase typique qu'on peut entendre dans beaucoup de colloques, même sans citation, sans source, parce que, et que vous reprenez dans votre livre, donc Pierre Laborie, Le Chagrin et le Venin. Alors, qu'est-ce qui vous choque dans le fait que ce film, du début des années 70, soit devenu, selon vous, le point d'orgue ou le point de départ d'une interprétation particulière, biaisée, selon vous, de cette Seconde Guerre mondiale ?
Ça ne me choque pas du tout. Hein. Donc, au contraire, moi, j'étais un grand admirateur du Chagrin et la pitié. Je suis rentré à la fac à la fin des années 1970 et tous mes étudiants se souviennent que j'exigeais absolument qu'ils voient le film avant, donc de pouvoir suivre mon cours, etc. Donc, je ne reviens absolument pas sur l'admiration qui a été la mienne, sur la nécessité absolue que représentait ce film à ce moment-là. Mais c'est comme Marcel Ophuls l'a dit lui-même, c'est un film qui était fait pour les Français de 1970. Mmh. Le problème, c'est ensuite que ce film a pris un sens un tout petit peu différent, peut-être des intentions même d'ailleurs de Marcel Ophuls lui-même. Et donc, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est d'essayer de déconstruire et de revoir tout ce qu'a été la réception du film et qui a pris lui-même un sens qui a été très, très au-delà des intentions premières de Marcel Ophuls. Et
en fait, la réception qui est concomitante, dites-vous, du travail d'un historien donc américain, Robert Paxton, très connu aujourd'hui, qui vient d'une certaine façon, les deux viennent se compléter, faire face à face d'une certaine façon ou dos à dos pour pouvoir dire ben voilà, la France de ces années-là, c'est la France du chagrin et la pitié.
Un tout petit peu, mais tout à l'heure vous avez dit que je m'étais que je voulais essayer de revenir sur le discours de certains de mes chers collègues qui sont des amis pour la plupart d'ailleurs. En fait, c'est pas tellement ça, parce que je crois que on a inventé en France ce moment-là, c'est un phénomène curieux sur lequel il faut encore réfléchir. Moi, je n'ai pas la prétention de tout régler, une espèce de bouillie, hein, je crois qu'on peut dire le mot, même si je l'utilise pas dans le livre, de bouillie mémoriaux médiatique ou à partir
des usages. Vous appelez ça la doxa de la France glauque.
Ben oui, c'est ça exactement. Et je crois quand même que le rôle de la presse, mais encore une fois, tout le respect que je vous dois à tous, donc a été absolument considérable.
On prend notre part.
Mais je pense que ce n'est pas un problème ni de culpabilité, là encore, ni de responsabilité. C'est simplement le fait que par des effets d'entraînement, par des effets d'imitation, de reproduction, phénomène d'ailleurs que les gens qui travaillent sur la presse constatent souvent, il y a eu à ce moment-là une sorte d'emballement. Et c'est vrai que dans cet emballement, l'article de François Giroux, que je rappelle, a joué un rôle absolument fondamental. Et tout d'un coup, on est passé d'un film qui était une réflexion sur la mémoire, parce qu'en fait, Le Chagrin et la pitié, c'est une réflexion sur la mémoire, sur les problèmes que pose le rapport au passé à travers la mémoire, à travers, bien sûr, son rôle tout à fait majeur, mais en même temps, ses bornes. Or, ce film, qui était un film sur la mémoire, est devenu une leçon d'histoire, posée comme quelque chose d'absolu. Et là, je pense que le rôle de la presse, relayé par certains historiens, a joué. Je vous dirai ensuite un mot sur Robert Paxton.
Allez-y.
Donc, et on est déjà dans l'ambiguïté, parce qu'en fait, effectivement, le livre de Robert Paxton paraît à ce moment-là.
Donc La France de Vichy.
Voilà, La France de Vichy, qui est un livre absolument considérable. Et pour ma génération, je veux dire, pour tous les historiens de ma génération, ça a été, bien sûr, un livre absolument formidable.
Majeur.
Qui a absolument majeur, décisif. Mais L'ambiguïté commence avec le fait, là encore, un peu comme d'ailleurs pour le film lui-même, on a donné à Paxton, on a donné à son livre, une fonction d'explication qui n'était pas exactement celle qui était au centre de son livre. Son livre, vous le savez parfaitement tous ici, donc, est un livre sur la collaboration d'État, où il a démontré de façon absolument irréfutable le fait que, contrairement à ce qu'on avait dit, et ce que j'enseignais moi-même, j'étais prof de lycée à ce moment-là, à savoir que ce qu'avait fait la France de mal, de pire même, c'était sous la contrainte allemande. En fait, cela a été très largement faux, puisqu'en fait, Vichy lui-même était demandeur de cette collaboration. Donc ça, c'est le sens du bouquin de Paxton. Et il y a quelques lignes, quelques pages au maximum
sur les collaborateurs fonctionnels.
Exactement, sur les collaborateurs. Et là, tout d'un coup, c'est devenu ce
donc,
qu'on a voulu faire
avec l'idée
de Paxton.
Que les gens qui ne se sont pas engagés, d'une certaine façon, étaient des absolument collaborateurs fonctionnels de ce régime,
voilà,
de Vichy.
Tous ceux qui ne prennent, en gros, tous ceux qui ne prennent pas les armes ou qui ne se manifestent pas contre Vichy sont forcément des gens qui sont des alliés objectifs, on dirait, si on prend la vieille terminologie marxiste, donc de Vichy. Et il me semble que tout d'un coup, il y a une extrapolation extraordinaire du rôle de Paxton. Moi, je m'en suis expliqué. Ça a été le début donc des échanges dans son livre à lui, dans l'introduction que j'ai faite à la seconde édition de mon livre. Mais moi, j'ai des rapports avec Robert Paxton qui sont absolument clairs. Ce qui est dommage, ce qui est étrange quand même, c'est la manière dont on veut lui faire dire des choses qu'il n'a absolument pas dites et qui a été considérablement exagéré par rapport à ce qu'il a dit au départ.
Perrine Carvron, une question à Pierre Laborie.
Et vous insistez dans votre livre régulièrement sur l'importance du contexte et sur l'impossibilité qu'on a à retrouver exactement l'atmosphère, à retrouver les sensations, à retrouver les prises de décision, les enjeux d'une époque. Et vous montrez bien aussi comment le fait que justement ce film soit sorti autour de, donc peu de temps après mai 68, le met aussi dans un contexte particulier, absolument, dans un moment où on tuait le père. C'était vraiment le moment où le gaullisme arrivait à son terme et où on voulait s'en débarrasser. Et vous liez en fait tous ces événements, la sortie du film, le livre de Paxton et ce moment où on tuait le père.
Vous l'avez très bien dit, je pense que je ne peux qu'approuver ce que vous dites à l'instant, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites.
Et vous faites une liaison qui est alors peut-être plus aventureuse, mais extrêmement intéressante, parce qu'effectivement, je ne l'avais jamais perçue comme cela, en lisant pas mal de livres sur ce sujet-là, une liaison avec une autre racine, pourrait-on dire, de cette critique, de cette opinion publique ou de ce caractère amorphe des Français pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, qui est une racine qui vient directement de vichistes à peine ou pas repenti, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on trouve d'une certaine façon une convergence entre des gens de gauche qui critiquent la résistance à travers la personnalité de De Gaulle arrivé au pouvoir et resté au pouvoir pendant toutes les années 60. Et de l'autre côté, donc une racine de droite, voire d'extrême droite, qui n'est jamais repenti de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui critique ce résistentialisme avec un T, donc qui naît en 1947-1948, tout de suite après la guerre, dans des propos, dans des écrits de Paris ou dans des journaux donc d'anciens collaborateurs, dites-vous, Pierre Laborie.
Oui, alors pour moi, c'était la grande découverte, enfin, en tout cas ma propre découverte, à savoir qu'effectivement, bon, c'est vrai que j'avais un problème quand j'ai vu l'extraordinaire usage qui était pris par le terme, par la notion de résistentialisme. Alors, j'ai découvert dans les livres scolaires en particulier, dans les manuels
aujourd'hui,
de classe terminale aujourd'hui, parce qu'en fait, je pense...
Vous savez qu'on est très écoutés par les professeurs du secondaire et qui nous disent toujours, faites attention, les historiens universitaires se basent sur les manuels, se font sur les manuels pour dire ce qui se passe dans les classes. Or, nous n'utilisons pas toujours les manuels ou nous les utilisons de façon parcimonieuse et nous ne disons pas toujours ce qui est écrit dans les manuels.
Les universitaires dont je suis ont été très longtemps professeurs, ouais, j'ai été 10 ans dans l'enseignement secondaire, dans les...
Non, mais c'est pour prévenir déjà les critiques de ceux qui sont professeurs.
Ils ont raison, bien entendu. Heureusement, les manuels ne sont pas la Bible que les profs suivent en classe. Il reste que ces manuels sont pour nous le miroir d'un certain discours qui existe dans la société.
Absolument.
Et même s'il est complètement réduit, effectivement, souvent caricaturé, il reste qu'il y a des choses qui sont absolument affolantes.
Alors, qui trouve-t-on dans ces manuels, justement, à propos de ce...
En gros, on voit donc, je le cite à un certain moment, mais moi, je les ai tous lus, je crois, à peu près, et c'est vraiment récurrent. Enfin, il y a bien sûr certaines nuances, mais en gros, donc, cette période de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale se résume à trois mots. Oubli de Vichy, ce qui n'est pas tout à fait exact quand même. Ensuite, fonction, et ça, c'est un peu plus gênant, fonction d'écran de la part de la résistance ou du résistentialisme. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce serait l'idée que l'on se fait de la résistance et eu une mémoire prétendument hégémonique de la résistance, ce qui, à mon avis, est complètement faux.
C'est ce que vous démontez dans le livre, d'ailleurs.
En tout cas, ce que j'essaie de démonter, voilà, en tout cas, donc, qui aurait joué ce rôle de fonction d'écran et que l'on rend presque responsable du fait que la conscience du génocide a été retardée, pour ne pas dire étouffée par cette mémoire-là. Et on donne, donc, on réduit quand même la résistance à un rôle extraordinairement préoccupant, quoi que l'on puisse penser la résistance elle-même, qui, bien sûr, n'est pas sans défaut. Mais là, c'est, je crois que, comme tous les phénomènes historiques, bref. Donc là, il y a un problème. Et c'est ce problème-là, moi, qui a été à la base de ma réflexion. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse, justement, revenir sur ce problème-là.
Mais allez-y.
Parce qu'il est au cœur.
Mais ça va faire allez-y, continuez, continuez. Bon, vous êtes là pour
donc,
ça.
Donc, j'ai voulu savoir d'où venait ce terme de résistentialisme qu'Henri Rousseau a repris ensuite avec un C. Et je me suis rendu compte, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'en fait, il est extraordinairement récent et que, par exemple, le premier numéro d'une revue d'extrême droite s'appelle Les Écrits de Paris et qui était le porte-parole, à ce moment-là, cette revue, la porte-parole, donc, de ces sentiments néo-vichistes, déclare d'emblée que, justement, leur rôle sera d'être des résistants au résistentialisme, c'est-à-dire une dénonciation masquée, bien entendu, de la résistance, avec le gros argument classique, à savoir la résistance est belle, elle est merveilleuse, etc. Mais ceux qui sont en train de la représenter sont des voyous, des bandits, etc.
Avec une idée de noyer le poisson aussi, parce que d'une certaine façon, c'était pour dire, écoutez, bien nous sûr. Sommes engagés du côté de Vichy, voire absolument. Du côté de la collaboration, mais nous n'étions pas tout seuls, il y avait que, donc, la majorité des Français étaient avec
ça,
nous.
Ça, bien sûr, c'est le gros argument dénoncé par Simone Veil, entre autres, plus tard, quand elle a critiqué le chagrin, à savoir qu'en fait, c'est un moyen pour que les vrais salauds soient noyés autour d'une culpabilité générale.
Alors, bon. Mais le lien, mais tout de même, pour nos auditeurs, entre ce résistentialisme avec un T des 1947-1948 et le résistentialisme, notion utilisée aujourd'hui donc en histoire, parce que Henri Rousseau, dans ses travaux, par exemple, l'a repris, mais avec un C,
avec
donc
un
en C, changeant la
avec un sens différent. Mais très mal
donc,
compris.
Donc, et donc, justement, qu'est-ce qui fait que cette vulgate, cette doxa médiatique l'a emporté et qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on ne pense à Vichy, à la collaboration et à la Seconde Guerre mondiale, que sous cet angle-là, du moins, c'est ce que vous dites.
Ben, si vous avez l'explication, je suis preneur, parce que ça fait partie justement des choses sur lesquelles je m'interroge. Mais je constate simplement les faits. Les faits sont là. Et entre autres, je constate, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure très justement, que cette sorte de connivence, mais qui n'est pas bien. Je n'accuse absolument pas Marcel Offus ou les gens qui ont repris ce discours-là ensuite, c'est-à-dire celui en gros de la lâcheté française, soit des gens d'extrême droite. Mais c'est vrai qu'on est frappé de l'extraordinaire coïncidence des mots et des arguments qui sont portés. Et je découvre. Alors, bien sûr, je me suis dit, tant que ce sont les néo-vichistes, ça n'a pas tellement d'importance, puisqu'en fait, c'est des gens qui sont ciblés sur le plan idéologique, donc qui ne sont pas tellement cru. Mais le problème, c'est qu'il y a eu cette littérature dont des hussards qui a repris ensuite cela sous un
alors là, vous
autre,
prenez Roger Nimier, Jacques Nimier, Laurent, Antoine Blondin. Que...
Moi, j'ai reconnu. Alors là, franchement, je suis vraiment tombé des nues parce que Blondin, pour moi, je lis l'équipe de façon donc, régulière. Donc,
c'est l'écrivain du cyclisme
et moi,
et du Tour de France.
Souvenir de jeune homme, Blondin, le gentil Blondin, le rigolo, bon, qui aimait picoler, comme tout le monde le sait, etc., etc., mais qui était quelqu'un qui était absolument adoré, presque, et qui faisait rire tout le monde. Et en fait, j'ai découvert quelqu'un. Alors là, si je reprends le terme de salaud de Simone Veil, c'est plein. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, ce qu'il dit sur la bataille du rail.
Une certaine noirceur, en tous les cas. Oui, il appelle ça le bétail du rail, ouais, c'est ça.
Exactement. Le bétail du rail, un film sur l'abattage clandestin. Donc, et ce genre de choses, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes, absolument des tonnes. Et là, je me suis dit, comme vous voyez, comment se fait-il quand même que des gens ensuite qui se réclament de la gauche et parfois de l'extrême gauche, qui tiennent ce discours culpabilisateur, parce qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que Vichy lui-même a voulu absolument culpabiliser la société française et on voit ensuite le chagrin, les gens qui exploitent le chagrin, revenir sur ce sentiment de culpabilité qui touche la société française. Et là, tout d'un coup, il y a donc cette coïncidence et elle m'interroge et j'interroge les gens aussi à travers ma propre
dans le chagrin et le venin. Anaïs, qui a une question à Pierre Laborie.
Oui, il y a peut-être un autre moment avant la sortie du chagrin et de la pitié où l'ambivalence de l'utilisation de la résistance et de la collaboration apparaît. C'est peut-être la guerre d'Algérie et le mouvement des insoumis et des rappelés de la guerre d'Algérie qui, on le voit bien dans leurs tracts de l'époque, ont du mal à utiliser ces deux références, c'est-à-dire que les rappelés qui ne refusent pas forcément de prendre les armes, justement en référence avec la résistance, parfois il faut savoir le faire pour défendre une cause juste, et en même temps refusent de se transformer en armée d'occupation. Et dès ce moment-là, dès le milieu des années 50, on voit bien la difficulté pour ces gens-là à manipuler ces notions et à s'y retrouver sans tomber dans un manichéisme qui va continuer pourtant quand même pendant de nombreuses années par la suite.
Pierre Laborie. Absolument, vous avez absolument raison. Et bon, c'est un sujet, moi, j'aborde avec beaucoup de précautions. J'avais parlé une fois avec Benjamin Stora, il l'a oublié sûrement. Enfin, en tout cas, je crois que le rôle de la guerre d'Algérie a été très important à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est ma génération, j'avais 20 ans moi, à ce moment-là, donc je m'en souviens très très bien. Et c'est vrai que notre génération a été marquée par les problèmes qu'on a pu rencontrer. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire la guerre d'Algérie, je suis passé juste après. Mais enfin, en tout cas, tous mes copains l'ont fait, ou presque, et donc c'est quelque chose qui a été vraiment profond. Il semble que la Seconde Guerre mondiale, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, ou son qu'on croyait être la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, a joué un peu le rôle aussi donc d'exutoire pour justement ces problèmes que venait de poser la guerre d'Algérie, ce que l'on découvrait d'elle, ce que l'on nous avait pas dit d'elle, qui était encore fondé sur le mensonge, et ce sentiment de l'imposture qui a été lié pour ma génération, en tout cas, au fait qu'on n'a pas pu prendre conscience de la réalité de ce qu'était la guerre d'Algérie, on l'a transposé d'une certaine façon vers ce...
Dans le travail que vous meniez sur la Seconde Guerre mondiale.
Voilà. Et moi, j'incite dans de jeunes chercheurs, parce qu'il y a encore très heureusement de très jeunes chercheurs qui travaillent cette période, de travailler là-dessus. Parce que là, je crois qu'effectivement, vous avez absolument raison, il y a une mine d'une très, très grande richesse.
Ce qui est très intéressant dans votre livre, donc Le Chagrin et le Venin, c'est qu'en fait, on y trouve, je vous ai dit hier quand je vous ai appelé, c'est un livre un peu crépusculaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce qualificatif, parce que c'est assez noir, mais en tout cas, c'est un livre où on voit tout de même une sorte de, amertume, de déception en tous les cas vers l'évolution de l'histoire aujourd'hui, mais également une question que vous vous posez par rapport au rôle de l'historien. C'est-à-dire que vous dites que c'est une leçon d'humilité pour l'histoire et pour l'historien, c'est aussi une leçon d'humilité parce qu'il y a la très grande étrangeté d'un univers, c'est ce que disait Perrine tout à l'heure, devenu en partie incompréhensible. Et vous vous dites, comment faire comprendre ce que moi j'ai perçu dans les archives, vous qui êtes spécialiste de l'opinion publique, à une population qui aujourd'hui donc a en tête cette doxa, cette vulgate, etc. dont vous parlez, de comment lui faire comprendre alors que justement tout le monde pense que c'est ça la vérité, c'est-à-dire cette accommodation, ces Français qui, pour 80% d'entre eux, vous dites d'où est sorti ce chiffre, qui peut dire qu'il y avait 80% de personnes qui se sont accommodées de ce qui s'est passé pendant cette période-là, avec 10% de résistants et 10% en gros de collaborateurs actifs. Et vous vous dites, pourquoi on ne remet pas ça en cause? Et vous dites, mais pourquoi n'y a-t-il pas une grande encyclopédie de la résistance, par exemple, ou une grande histoire de la résistance en 5, 10, 15 volumes qui était entreprise depuis très longtemps?
Effectivement, là encore, vous posez très bien le problème. Bon, d'abord, pour les chiffres, on pourrait presque sourire. Enfin, effectivement, quand on traduit, comme j'essaie de le faire dans le bouquin, à un moment, je me suis amusé simplement à voir ce que représentaient les chiffres qui sont avancés tout le temps.
Bon, 100 000 collaborateurs à la fin de la guerre et 100 000 résistants.
Donc c'est ce que dit Patrick Othman. Bon, et c'est intéressant de voir que quand le film de Patrick Othman, donc,
était 44, film, ailleurs, était
absolument... 44. Absolument remarquable. Il reste qu'en fait, il dit, donc 100 000 résistants d'un côté, 100 000 collabos de l'autre, puis au milieu, la masse amorphe.
Indifférenciée, c'est ça, amorphe.
Alors là, je pense qu'on est au cœur du problème, vraiment. C'est-à-dire, déjà, on donne une image donc, de cette société française, à mon avis, qui est très discutable. Et surtout, on retrouve là quelque chose qu'on retrouve justement dans le discours de l'extrême droite au lendemain de la guerre, c'est l'équivalence entre les résistants d'un côté et les collabos de l'autre. Et
la paix des braves, on a pris les armes les uns contre les autres, etc.
Non, mais ça pose un problème absolument considérable, parce que même si nous arrivions à prouver, ce qui n'est pas possible selon moi, même si on arrivait à prouver qu'il y a eu le même nombre de gens d'un côté et de l'autre, la signification des chiffres pose un problème absolument considérable, je l'aborde dans le bouquin, et deux, j'insiste encore plus là-dessus parce que c'est le plus important, l'environnement social des deux phénomènes absolument...
Vous dites qu'il ne faut pas faire le deuil d'une histoire sociale, d'une histoire... Racontant les itinéraires de toutes ces personnes-là.
C'est la catastrophe.
Et on pourrait prendre exemple sur un travail remarquable de Claire Zalk et de Nicolas Mario qui s'appelle Face à la persécution sur les Juifs de Lens, qui tente justement de raconter comment chacun individuellement a pris des décisions en fonction de sa famille, en fonction du contexte de l'époque, en fonction de ce qu'il fallait sauver
de sa propre vie. Mais justement, dans l'espace médiatique, Emmanuel Laurentin, on a peut-être un exemple plus démocratique que ce livre d'histoire de Claire Zalk et Nicolas Mario, qui est la série Le Village français, produit par France Télévisions, qui tente malgré tout d'introduire cette nuance. Alors c'est Jean-Pierre Azéma que vous malmenez dans votre ouvrage, qui est conseiller historique, mais là on tente quand même de démêler les écheveaux et de sortir de ces chiffres et de ces blocs manichéens.
Avec la question des évolutions, année après année, des opinions d'un même personnage, parce qu'on n'est pas fixe entre 1940 et 1945.
Pour certains personnages, c'est vrai, en particulier pour le personnage du maire, c'est vrai qu'il est un résumer un tout petit peu de la complexité du temps. En revanche, vous êtes trois femmes autour de cette table. Je ne sais pas ce que vous pensez de la manière dont sont représentés les personnages féminins du film. C'est un autre problème. Je pense que vous pourrez faire une émission là-dessus un jour. Il y aurait, je pense, énormément à dire. Hein. Donc, mais je ne sais pas si le village français est vraiment... Enfin, en tout cas, ce n'est pas au cœur de ce que j'ai voulu faire... dans mon livre.
Non, ce qui est Perrine Carvan.
Oui, et ce que je voulais savoir aussi, c'est comment finalement vous avez essayé de montrer que la résistance que vous dites, vous, qu'elle a, voilà, vous dites, voilà, on dit aujourd'hui la résistance, on a présenté ça jusqu'aux années 58 comme le grand mythe fondateur de la République, etc. Et vous expliquez, vous, qu'en fait, pas du tout, que vous dites que c'est ce qu'on pense aujourd'hui, mais qu'en fait, la France, enfin, le mythe n'était pas résistentiel, il n'y avait pas vraiment, c'était uniquement un mythe politique ou un outil politique, mais que ça n'était pas l'opinion qui était répandue. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a cette sensation, on a été élevé avec cette idée qu'il y avait cet écran résistentialiste.
C'est une vision politique des choses qui pose, je crois, un second problème que je tente de soulever dans mon livre, c'est celui des catégories à travers lesquelles il faut tenter de penser cette période. Et c'est vrai que je suis frappé du fait, peut-être parce que les historiens qui ont écrit majoritairement sont eux-mêmes des historiens du politique, je suis frappé du fait que généralement, c'est à travers les grilles de l'histoire politique qu'on tente d'aborder
cette période. Alors qu'il faudrait les aborder sous les grilles de l'histoire sociale, par exemple.
Oui, de l'histoire sociale, de l'histoire aussi culturelle, ouais. Culturelle et sociale. Je crois que c'est fondamental. Enfin, il me semble que là, il y a un problème. Par exemple, si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la résistance, dire qu'il y a eu cette équivalence que reprend le film, je disais en particulier quand il dit 12 000 soldats dans la division Leclerc, 12 000 collabos dans la division Charlemagne. Bon, ce genre d'équivalence qui est chaque fois remis donc comme un thème récurrent pose un problème de fond, je répète, sur d'abord la fiabilité des chiffres, mais surtout sur le fait, j'insiste là-dessus, c'est que la collaboration en France n'a jamais, 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 j'insiste lourdement, n'a jamais bénéficié d'une approbation générale de la part de la population. Et ça, on peut le démontrer de façon systématique. Et même dans les documents allemands, il y a de jeunes chercheurs à l'heure actuelle, de très jeunes chercheurs qui travaillent là-dessus et qui travaillent plus que nous l'avons fait, nous, parce qu'on avait certaines priorités. Moi, j'ai fait de l'allemand, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Et donc, travaillent sur les documents allemands. Ils voient que les documents allemands, y compris les documents qui viennent de la SS, disent que la population française n'accepte pas cette collaboration et même à des taux supérieurs encore à ce que, par exemple, on trouve dans Philippe Burin.
Alors, il y a des choses très intéressantes dans ce livre, Le Chagrin et le Venin, en particulier quand vous apportez vous-même votre propre contribution à l'édifice en rendant peut-être plus accessible que dans les articles que vous avez écrits ou dans des colloques votre propre pensée, en particulier tout ce que vous développez sur la question du penser double, tout ce que vous développez sur la question du vivre double et de la question de qu'est-ce que ça veut dire d'être sous la botte de l'occupant avec des gens qui sont à côté de soi, qui quelquefois vivent dans la maison d'à côté. Et comment justement il faut trouver des moyens pour pouvoir à la fois penser quelque chose, pas forcément l'affirmer, parce que on mettrait en danger aussi sa famille, mais aussi des réseaux, etc., etc. C'est ce que vous expliquez.
Ce que je tente de faire moi, depuis le début, c'est cela en fait. Si je
c'est la notion d'ambivalence.
Sorte... Absolument. Mais là encore, avec elle-même beaucoup d'ambiguïté. Enfin, moi, je vais vous faire sourire, mais je peux vous assurer que quand j'avais commencé à travailler là-dessus, je m'étais rendu compte très vite, effectivement, que les grilles classiques de lecture de l'histoire politique ne pouvait pas fonctionner sur une compréhension de la complexité de cette période. Donc, j'avais à ce moment-là mis en avant ce terme d'ambivalence, mais que j'avais tiré de Freud directement, dans le sens vraiment de savoir l'ambivalence, c'est à un certain moment la capacité de penser deux choses contradictoires, mais sans avoir la conscience qu'on vit une contradiction. Et je me rappelle que de très bons copains, dont je ne citerai pas les noms, qui sont de grands noms aujourd'hui, disaient « Monsieur ambivalence est là quand j'arrivais quelque part ». Donc, pour dire qu'à ce moment-là, cette approche dont était considérée comme folklorique, j'étais provincial, de Toulouse, donc il est bien gentil, ce petit laborisme, enfin bon. Et ensuite, quelques années après, je me rappelle, j'ai un autre grand historien, je ne citerai pas, dans un colloque... à l'étranger, disant le terme d'ambivalence est devenu la clé formidable d'explication. Bon, bref. Et alors maintenant, il y a un problème, c'est-à-dire qu'en fait, on est très loin de l'ambivalence telle que je la concevais moi. C'est-à-dire maintenant, c'est l'équivalent de duplicité, calcul, double jeu, etc. Et là, pour moi, encore une fois, c'est un détournement de sens par rapport à... Alors c'est pour ça que j'ai parlé de ce fameux penser double, c'est-à-dire qu'à un certain moment, me semble-t-il, les gens ont vécu dans une culture du double qui était absolument indispensable. C'était une seule façon de vivre.
Alors, on arrive au terme de cet entretien, c'est bien dommage, Pierre Laborie, parce que parce que ça n'a pas duré assez longtemps avec vous. C'est donc tout de même, il y a des choses très intéressantes parce que vous rejoignez certains écrits comme celui d'Alain Guérin. Pourquoi vous rejoignez Alain Guérin alors que vous n'êtes pas d'accord avec lui? Parce qu'il dit en fait, il y a une allergie à l'épopée. Ah. Et on a l'impression que sur ce point-là, vous êtes d'accord avec des historiens qui ne sont pas d'accord avec vous habituellement. Oui. C'est-à-dire, voilà, il faudrait quand même se poser la question de savoir pourquoi notre pays a une telle allergie à cette épopée de la résistance en particulier.
Le mot d'épopée me gêne effectivement parce qu'il est synonyme de...
Bien sûr.
La chose sur laquelle je veux parvenir.
C'est ce qu'on ressent.
Pour la résistance, je crois effectivement qu'un certain nombre d'historiens actuels, que je ne respecte pas ailleurs, mais la font en fausse route complètement, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument traiter de la résistance comme si c'était un phénomène normal. Et moi, je dis qu'il y a une part de singularité dans la résistance elle-même qui est liée à sa nature, et en particulier cette dimension du légendaire qui appartient profondément à la nature même de la résistance. Et le fait de vouloir l'ignorer nous amène, je crois, à des erreurs de sens complètement.
Un dernier mot. Est-ce que vous n'avez pas peur? Vous avez évoqué au tout début de cette émission cette remarque de Patrick Cohen sur France Inter à propos de ce que disait Audrey Pulvar sur votre livre, de vous retrouver projeté du côté de ceux qui critiquent la repentance, c'est-à-dire du côté d'Henri Guénaud, de Nicolas Sarkozy, etc. Alors que ça n'est pas a priori vos idées politiques, ni même vos idées sur cette Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que d'une certaine façon, vous ne risquez pas de vous retrouver dans ce camp-là?
Mais si, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Et en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai longtemps hésité à écrire ce livre. Béatrice Bougnol, qui m'a beaucoup aidé, qui a absolument voulu que j'écrive ce livre, le sait, parce qu'on en a souvent parlé. Notre correspondance, entre autres, pourrait en témoigner. C'est qu'effectivement, moi, je me suis dit, systématiquement, ça va être interprété comme la récupération de quelque chose qui est contraire, bien sûr, à ce que vous voulez dire. Mais c'est un pari. Je l'ai tenté, je l'assume, j'y reviens souvent. Est-ce qu'on peut ne pas dire des choses qui sont nécessaires sur le plan critique sous le prétexte que certains vont en profiter? D'autant que, apparemment, quand les gens qui ont construit donc cette vulgate après le film, ne se sont pas du tout préoccupés du fait qu'ils reprenaient exactement, mot à mot, les mêmes mots que les gens d'extrême droite avaient tenus 20 ans auparavant. Ça ne les gênait pas du tout.
Mais ils ne le savaient peut-être pas. Pour certains d'entre eux.
Pas, j'en suis moins sûr pour un certain nombre d'entre eux. Voilà.
Merci en tout cas Pierre Laborie. Je rappelle que votre livre s'appelle Le Chagrin et le Venin, La France sous l'occupation, mémoire et idées reçues, et qu'il est publié chez Bayard. Merci d'être venu en priorité
Merci
chez
vous.
Nous pour pouvoir en parler. Et bien là, on fait un grand saut dans le passé avec vous, Péric
Garand. Mais on annonce la semaine prochaine.
On annonce la semaine prochaine, puisque nous allons faire une histoire du vêtement. Et là, vous nous parlez d'une mode. Je rappelle que cette chronique de Péric Garand est dédiée à une mode passée qu'on ne comprend plus aujourd'hui. L'immense étrangeté du passé, dirait Pierre Laborie. Et là, c'est une mode de 1775.
Voilà, donc, dans les grandes villes, notamment à Paris, certains intellectuels et aristocrates éclairés, nourris des lumières, se mettent à porter des vêtements à rayures. Alors, vous me direz, aujourd'hui, tout le monde porte de la rayure. Oui,
vous avez même une marinière, vous-même, voilà, donc voilà.
De la rayure horizontale. Voilà. Là, attention, je parle de la rayure verticale.
Et notre réalisatrice, Charlotte Roux, aussi a une rayure horizontale.
Voilà, donc, rayures rouges et blanches, des rayures plutôt fines et surtout, donc, des rayures verticales. Alors, on les voit dans les rues, dans les salons, dans les grandes maisons et dans les lieux publics, là où les beaux esprits se rassemblent et veulent être vus. Ces rayures fièrement portées sont inédites, car jusque-là, elles étaient l'apanage des domestiques en livrée et du petit personnel, et parfois des serviteurs de couleur forcés à l'exotisme. La mode est venue des États-Unis, importée en France par ceux qui sont allés soutenir la révolution américaine contre l'autorité britannique et qui, au retour, pour afficher leur soutien à la cause, ont commencé à arborer le drapeau à 13 rayures de ce pays neuf. On met des pantalons à rayures, des vestes rayées, des gilets rayés, et bientôt la rayure rouge devient un signe de solidarité et d'américanophilie, et par extension, la tenue fétiche d'un esprit libéral et éclairé, sensible aux idées nouvelles. Et surtout, la rayure devient vite un signe ostensible d'anglophobie. Mais la mode étant contagieuse, comme on le sait tous, nous tous en marinière, et les premiers catalogues recensant les dessins des tenues à la mode commençant à se diffuser, la mode anglophobe se répand jusqu'en Angleterre, à travers les classes sociales, toutes les classes sociales, mais désormais pour son aspect purement esthétique.
Alors ça veut dire aussi que nos manuels ne nous ont pas tout appris, et que la rayure était donc sur les pantalons, bien avant les sans-culottes et les citoyens à cocarde, c'est ça?
Voilà, puisque c'est la cocarde tricolore justement qui lie la rayure à la Révolution. Ces rayures tricolores que l'on retrouve sur les écharpes des maires et sur les pantalons des citoyens, qui voient dans cette manière d'uniforme une sorte d'égalité. On la retrouvera plus tard sur le drapeau. La rayure continue sa lancée et bientôt va gagner les murs et jusqu'au mobilier à mesure qu'elle est vidée de son sens. Murs rayés blanc-rouge, blanc-bleu, blanc-vert, vert-jaune, tentures zébrées, fauteuils tendus de toiles rayées seront la marque du style directoire. Elle est alors de nouveau teintée d'exotisme, liée au retour d'Égypte, et on voit parfois des toiles de tentes rayées montées dans les salons mondains en manière d'attraction.
Alors ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment ces modes sont récupérées ensuite. Cette mode de la rayure est récupérée par les romantiques, c'est ça ?
Voilà, donc les rayures conquièrent les romantiques, puis le bord de mer. Des tentes aux cabanes de plage en passant par les costumes de bain. Elle est liée désormais à cette nouvelle notion d'hygiène qui émerge. Le blanc est donc là pour la propreté et la pureté, et le noir pour ne pas être nu. Le costume de bain, rayé noir et blanc, signale donc autant qu'il dissimule. Et le bain de mer va associer pour longtemps la rayure à l'hygiène et au linge de corps. La rayure fait donc partie désormais grâce à cela du quotidien.
Mais on le sait grâce à l'historien Michel Pastoureau, cette rayure revient de loin et en particulier du Moyen-Âge, c'est ça ?
Voilà, puisqu'elle était réservée à l'époque aux prostituées, aux juifs, aux hérétiques, aux bouffons, aux jongleurs ou aux lépreux. Tous ont à voir avec le diable, avec la marge et dérangent l'ordre établi de l'époque. Alors une écharpe, une robe ou une aiguillette souvent rayée de jaune et de rouge pour les courtisanes, des chausses ou un chaperon pour les bourreaux, des pourpoints ou des bonnets pour les jongleurs, les rayures marquent aussi le chevalier félon des romans des chevaliers de la table ronde, Judas dans les enluminures ou les animaux menteurs, roublards, roux et tachetés du roman de Renard. Dans les textes et les images, les rayures peu à peu vont stigmatiser faussaires, parjures, faux monnayeurs, criminels et fous, puis les métiers déviants, les forgerons qui sont un peu sorciers comme tout le monde le sait, les bouchers sanguinaires, les meuniers affameurs ou les excommuniés. Les rayures sont en effet bien pratiques, elles attirent l'œil et se repèrent bien à une époque où les classes sociales se lisent sur l'apparence extérieure.
Et alors pourquoi tant de haine vis-à-vis de ceux qui portent des rayures ?
Exactement. Alors l'hypothèse de Michel Pastoureau, c'est que cet opprobre sur la rayure pourrait venir d'une interprétation d'un texte biblique dans le Lévitique qui dit « Tu ne porteras pas de vêtements faits de deux ». Alors au Moyen-Âge, on a parfois traduit « de deux couleurs », donc de vêtements rayés. Mais si on revient aux rayures réservées aux exclus et aux bagnards, Michel Pastoureau émet une encore plus séduisante hypothèse. Et si ces rayures étaient comme les traces des socs laissées dans les champs labourés, comme les traces des dents du peigne dans une chevelure démêlée, comme une barrière ou une clôture, une tentative pour remettre un peu d'ordre, redresser et remettre dans le droit chemin.
Merci donc pour cette chronique. C'était à la mode, Perrine Kervran. C'était à la mode en 1775. Les rayures, on peut la retrouver sur le site internet www.franceculture.com. En réécouter cette émission, toute cette émission avec Pierre Laborie, avec Chantal Meyer-Plantureux pour l'inconnu des archives. Je rappelle que vous pouvez laisser également donc votre propre inconnu des archives à la page du vendredi de La Fabrique de l'Histoire, www.franceculture.com, rubrique les émissions La Fabrique de l'Histoire. Vous pouvez également nous communiquer vos intentions ou au contraire vos critiques sur notre groupe Facebook des Amis de La Fabrique de l'Histoire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marcet, à la technique Jean-Frédérics, à la réalisation Charles Trou. La semaine prochaine, vous l'avez compris, on parlera de vêtements et notre invitée lundi sera Madeleine Chapsal.